Bonjour à tous et bienvenue dans Ouvre-la, une émission de jeunes. Aujourd'hui, on est le 30 mars, dimanche 30 mars, et moi et mon père qui animerons l'émission dans les locaux, depuis les locaux de Cause Commune pour vous présenter le monde sous l'angle de la jeunesse. On est diffusé en direct sur Radio Cause Commune 93.1 ou sur le site cause-commune.fm et ce sera redisponible plus tard en podcast. Aujourd'hui, c'est le printemps et quoi de mieux pour cette merveilleuse saison? Enfin, c'est le printemps depuis un petit moment déjà.
Pas tant de ça, non, c'était cette semaine.
C'était le 21. Et quoi de mieux pour ça pour parler d'une autrice qui adore la nature et les fleurs? On vous parlera de Colette et sa place dans le bac de français. On continuera sur un sujet qui est aussi relié au printemps. Vous avez sûrement, comme plein de gens, des allergies au pollen. Eh ben, la gestion des allergies au lycée via le système dit PAI, on vous en parlera, on vous expliquera ce que c'est, avec une invitée spéciale. Et pour finir, on fera... Je vous ferai la présentation d'un jeu auquel j'ai joué, Ena Dream Barbecue. C'est tout de suite sur Cause Commune en FM 93.1 ou en DAB ou sur internet à l'adresse cause-commune.fm. I was just a lonely girl in the eyes of my inner child. I could be anything I want. Alors, on va parler de Colette. Alors, Sidonie Gabrielle Colette, de son vrai nom, c'est une femme de lettres, une actrice et une journaliste française qui est considérée comme, vous le savez sûrement, je m'entends plus, l'une des plus grandes journalistes françaises, l'une des plus grandes autrices françaises, étant donné qu'elle est connue bon, non seulement dans tous les pays francophones pour ses romans, sa poésie, etc., mais aussi à l'étranger, notamment ses livres Les Claudines qui ont fait des qui ont retenti à mais dans le monde entier en fait.
Les livres Claudine, c'était ça parlait de quoi?
C'est des livres que Colette dira non autobiographiques mais qui racontent un peu quand même sa vie
puis surtout sa jeunesse. C'est une très jeune fille qui entre autres arrive à Paris et puis c'est un peu c'était la première fois qu'on voyait le monde à travers les yeux d'une très jeune fille.
Oui, c'est ça. Avec aussi cette vision assez libérée déjà. Alors Claudine, ça reste une fille assez assez calme, on va dire, loin de la, on va dire la tout ce que faisait Colette. Colette, c'était quand même une femme qui était dans le monde du spectacle, qui fréquente le monde de la musique, mais vraiment ce monde assez mystérieux qui est celui du music hall, avec beaucoup d'amis, parfois prostituées, qui va avoir des amours lesbiens aussi. Claudine, ça reste beaucoup plus calme, en fait, comme enfance, et c'est Claudine est beaucoup plus une enfant modèle que ne l'a été Colette, en fait. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est par contre de comparer les Claudines à l'enfance véritable qu'a vécu Colette. Parce que Colette, elle naît le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur en Puisaye, dans l'Yonne. Elle grandit avec sa famille, donc sa mère qui s'appelle Sido, à qui elle dédie tout un livre. Mais aussi son père qu'elle dit le capitaine et ses deux frères Léopold et Achille dont un qui était en vrai son demi-frère mais qu'elle voit comme ses deux frères. Du coup elle vit une enfance vraiment qui est dont elle parle pour le coup dans Claudine où elle la décrit vraiment comme magnifique. Elle, toute l'essence du livre Sido, qui est étudié au bac de français, c'est cette enfance où elle fait des espèces de portraits, portraits souvenirs de sa mère, son père et ses deux frères, où elle va montrer des... Elle va faire des descriptions très très poétiques de, des endroits de son enfance, donc son jardin d'enfance, qui était un peu le royaume de sa mère, etc. Et Sido, dans son étude au bac de français, c'est lié à 23 autres textes qui sont dits les Vrilles de la Vigne, qui elle raconte plus sa vie future à Colette, où elle va raconter là plus ses amours et notamment sa relation avec Willy. D'ailleurs, je crois qu'on a un extrait où on l'entend parler.
Ouais. Alors tu veux entendre la vie de Colette sur. Enfin, quand on l'interviewait à propos de Willy, et puis après tu nous parleras de qui était Willy.
J'étais fiancée, je me suis fiancée. Monsieur Willy m'a demandé ma main, et quand j'avais 15 ans, et ma foi, 2 ans après, nous étions encore fiancés, comme dans les anciens romans.
Si je comprends bien, vous avez donc longtemps connu Monsieur Willy avant de l'épouser. Je me permets de m'étonner alors, n'est-ce pas, de l'espèce de différence énorme qu'il y a eu sans doute entre l'homme que vous avez connu et l'homme tel qu'il s'est révélé à vous.
Oh oui, mais ça, vous allez un peu loin. Je me permettrai de vous arrêter amicalement. Et ma foi, je ne vois rien d'autre à en dire. Entre ce qui a lieu un jour et ce qui lui succède un lendemain, il peut y avoir tant de différences sentimentales et autres que je n'irai pas plus avant.
Elle n'ira pas plus avant.
Elle n'ira pas plus avant. Bah déjà là, on voit que Colette, c'est pas cette femme patiente et serviable qui est décrite dans les Claudines quand même. Elle a ce truc de là, pour le coup, d'aller un peu envoyer chier la personne qui l'interview.
Ouais.
Mais surtout parce que quand on lui parle de sa relation avec Willy, ça ramène des souvenirs qui sont en fait absolument horribles pour elle. Colette, pour rappel, elle se marie à 20 ans avec le dit Willy, qui est de 15 ans son aîné, donc il y a déjà cette balance en fait de pouvoir qui est très très inégale, et elle va vivre une relation absolument horrible. Willy, non seulement la force à écrire, mais il publie en plus ses livres, Les Claudines, sous son nom. Il en prend tout le succès.
Sous son nom à lui.
Sous son nom à lui, oui.
Pas sous son nom à elle, donc.
Voilà. Pour une petite anecdote, Colette, elle déteste absolument la mer. Elle dit dans En marge d'une page blanche, qui est un des textes d'Evry de la Vigne, et je cite, « Je suis malade et méchante comme la mer. » Elle dit aussi « Je déteste par-dessus tout la mer. » Et Willy, il l'a contraignée non seulement à aller à la mer, mais en plus à aller à la mer pour que lui puisse aller voir ses maîtresses qui étaient à la mer. Donc vraiment une relation qui était absolument dégueulasse. Et c'est seulement après leur séparation en 1906 que Colette, elle va pouvoir se libérer en fait artistiquement. Elle va se lancer dans le musical, donc la performance sur scène. Elle va détruire tous les codes. C'est une des premières à lancer la mode de la garçonne, par exemple. Mais aussi, elle va performer nue sur scène en fréquentant des bars gays et lesbiens et en assumant pleinement sa bisexualité. Le scandale, il ira si loin que la police, elle interdira certaines de ses représentations parce qu'elles étaient contraires aux mœurs, en fait. Et c'est cette libération qui va lui faire retrouver peu à peu la passion de l'écriture. Par exemple, elle aura pour amante Mathilde de Morny, qui va s'appeler Missy, en fait, enfin, qui va être dite Missy, à qui elle dédiera plusieurs nouvelles/poèmes dans Les Vrilles de la Vigne, qui sont au programme de français. Les trois poèmes, si je me souviens bien, c'est Nuit blanche, Jour gris et Le dernier feu, où elle va raconter les hauts et les bas de leur amour, mais toujours avec une poésie qui est très très différente de quand elle va décrire ses amours avec Willy, qu'elle décrit systématiquement comme absolument horrible en fait. Alors même que quand elle en parle, elle dit qu'il y avait des points positifs, mais ça a été véritablement une destruction pour elle, cet amour.
Donc, les vrilles de la vigne, ça s'écrit comment?
Les vrilles, comment ça s'écrit comment?
Pour moi, c'est un seul mot, les vrilles de la vigne. Enfin, je sais pas ce que ça.
Alors, c'est ce que ça veut dire. L'article vrille, V-R-I-2-L-E-S, et de la vigne.
D'accord.
La vigne. C'est-à-dire que les vrilles de la vigne, c'est aussi le nom du premier texte du recueil des 23. Où c'est une description justement de l'amour avec Willy, où Colette c'est un rossignol et Willy c'est une pousse de vigne qui va l'empêcher de voler.
D'accord, et qui va comme s'entourer autour de son pied.
Autour de son corps, qui jusqu'à presque jusqu'à presque l'engloutir au final, et elle va en réchapper au dernier moment dans une libération en y laissant des plumes, et ça va lui laisser des cicatrices pour la vie. Donc vraiment. Ce truc de l'amour toxique à son plein.
Ouais, non, c'est un texte que je connais pas, donc je comprenais pas le titre.
Voilà. Et du coup, Colette, elle poursuit sa vie en tant que journaliste, notamment. Elle documente la place des femmes durant la Seconde Guerre mondiale, où elle va faire vraiment ce travail-là. Et en 1945, elle est élue à l'Académie Goncourt, dont elle devient la présidente 4 ans plus tard. Et en 1953, elle est élevée à la dignité de grand officier de l'Ordre National de la Légion d'honneur. En gros, Colette, c'est une vraie femme de son époque, importante au niveau de ce que plein d'hommes avaient eu avant, mais c'est la première femme à être élevée à ce niveau en réalité. Et quand elle meurt, donc un an après avoir reçu la Légion d'honneur le 3 août 1954, ça a été la première femme à recevoir des obsèques nationales en France. L'église lui refuse par contre un enterrement religieux pour conduite amorale, parce que Colette, en fait, assumer sa bisexualité, elle était aussi assez friande de jeunes hommes qui étaient beaucoup plus jeunes qu'elle. C'est tout un personnage qui a mené à ça, mais ça n'empêche pas que dans la mémoire de tous, et Colette, ça reste une des plus grandes autrices françaises, si ce n'est mondiale, en fait.
Comment ça se passe, la préparation du bac autour de ce texte?
Ce qui va se passer, déjà dans le choix des œuvres, parce que c'est pas forcément Colette, le professeur, il doit choisir, pour ses classes de première, 4 œuvres de 4 genres différents. Donc, la poésie du 19e au 21e, la littérature d'idées du 16e au 18e, le roman et le récit du Moyen-Âge du 21e et le théâtre du 17e au 21e siècle. Et du coup, à chacune de ces œuvres, il y a un parcours qui est associé, c'est-à-dire une idée dans laquelle l'œuvre s'inscrit. Par exemple, pour Sido et l'Évry de la Vigne, ça tombe dans la case du roman et récit du Moyen-Âge au 18e et c'est associé au parcours La Célébration du Monde. Donc, une fois que le prof il a choisi l'œuvre, il va la faire étudier à ses élèves selon ce parcours. Donc, on va voir en quoi Colette célèbre le monde, comment, quel monde elle célèbre, pourquoi, et le cours entier va se structurer autour de ce parcours-là. Voilà, donc on va étudier les thèmes majoritaires dans Sido et l'Évry de la Vigne. Donc, dans Sido, ça va être la famille avec ses espèces de portraits, de souvenirs de la mère, du père, des deux frères, avec une enfance totalement idéalisée, avec ce jardin de sa mère qu'elle décrit littéralement comme un havre de paix parfait, mais aussi elle va exprimer typiquement ses regrets, ses doutes et ses peines sur sa famille. Un exemple qui est assez touchant, c'est qu'elle regrette dans toute la partie sur son père de ne pas l'avoir assez connu. Ce qui est décrit, c'est que le père de Colette, il a passé sa vie à écrire un livre qu'il laissait personne lire, et quand il meurt, quand on va ouvrir ses carnets, on va s'apercevoir qu'ils sont vides. Donc, pour le coup, c'était assez petit choc mais qu'est-ce qui s'est passé là, quoi? Elle parle aussi de ses deux frères qu'elle qualifie de « les sauvages », c'est le titre de la partie qui leur est dédiée. Il y a tout un texte que moi je vais passer pour l'oral du bac sur son frère Léopold, qui en fait a jamais grandi et qui va errer comme un espèce d'enfant aventurier alors qu'il a 50 ans et qui va un jour revenir au village natal, mais des années après que toute la famille l'ait quitté, et qui va revenir voir Colette tout énervé parce que ils ont mis des patates à la place des fleurs ou parce que ils ont changé la grille de la maison. Avec et ce truc assez lunaire, mais de vraiment culture familiale, du coup, de l'enfance et du souvenir. Voilà. Et bon, bah surtout, Sido, c'est le prénom de la mère, en fait, et c'est le nom du titre parce que c'est le personnage principal de l'enfance de Colette, au final.
D'accord.
Toute l'enfance de Colette tourne autour de sa mère. Elle l'idéalise à balle, pour le coup. Elle la décrit comme une espèce de... pas vraiment sorcière, mais de femme savante, athée, qui sait lire la rudeur de l'hiver, la rudeté. La rudeur de l'hiver en fonction, en comptant les feuilles des oignons ou en regardant les coussinets des chats.
Et si tu nous lisais un petit peu de Colette, qu'on se rende compte un petit peu de la portée des textes qu'elle écrivait.
Alors, j'ai un texte d'Evry, et un extrait d'un texte d'Evry de la Vigne. Donc, Toby Chien parle. C'est ce texte où elle fait parler ses animaux qui la regardent, elle.
D'accord. On l'écoute.
Et du coup, là, c'est une tirade de Colette qui parle à son chien. Je vais faire ce que je veux. Je veux jouer la pantomime, même la comédie. Je veux danser nu si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux me retirer dans une île s'il me plaît ou fréquenter des dames qui vivent de leur charme, pourvu qu'elles soient gaies, fantasques, voire mélancoliques et sages, comme sont souvent beaucoup de femmes de joie. Je veux écrire des livres tristes et chastes où il n'y aura que des paysages, des fleurs, du chagrin et de la fierté et la candeur des animaux charmants qui s'effraient de l'homme. Je veux sourire à tous les visages aimables et m'écarter des gens laids, sales et qui sentent mauvais. Je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi, dans le monde, mon corps rebelle au partage, mon cœur si doux et ma liberté. Je veux... Je crois bien que si quelqu'un ce soir se risquait à me dire « Mais enfin, ma chère, eh bien je le tue, ou je lui ôte un œil, ou je le mets dans la cave. »
Excellent. Et donc, attends... dans le texte, c'est le chien qui parle de Colette ou c'est...
C'est Colette qui s'énerve contre son chien et le chien qui va retranscrire ce que Colette a dit à sa chatte.
Ok.
Donc c'est très très spécial, Colette. Mais moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai trouvé ça génial d'avoir une adolescente, mais si... Enfin, parce que là, elle est adolescente dans le texte. Si réelle, en fait. C'est qu'une fille aujourd'hui pense comme ça, ça choquerait personne, mais parce que ce désir de liberté, enfin, moi j'ai trouvé ça génial pour le coup.
Eh ben, merci de nous avoir fait découvrir Colette, et j'espère que tu vas tomber sur un de ses textes au bac de français, parce que t'as l'air de l'avoir vraiment apprécié.
On enchaîne sur Like a Dog de Jordana. I'm loyal enough. voilà, alors j'ai beaucoup parlé de Colette, je pense que je pourrais parler des heures de cette autrice.
Ah, ça sent que t'as fait une belle découverte là.
Ah, pour le coup, mais c'est parce que je suis un peu en intello, donc j'aime bien les cours de français. Bon, on continue sur un autre sujet, les PAI, c'est-à-dire les protocoles, projets d'accueil individualisés. C'est des protocoles qui sont appliqués pour des élèves qui ont besoin d'adaptation spéciale au lycée, enfin à l'école en général. Ça peut être appliqué pour plein de raisons différentes, que ce soit des raisons souvent de santé, donc tout ce qui est gestion des allergies, gestion du diabète, etc. Ça touche pas mal d'élèves. En 2013-2014, j'ai vu ça à l'instant, c'était 100 000 PAI qui étaient faits chaque année. Et on peut se douter
chaque
que ça...
année en France.
Chaque année en France. Et on peut se douter que ça n'a fait qu'augmenter avec l'avancée des années, le nombre d'élèves. Enfin, ça peut être fait pour plein de raisons, comme je l'ai dit.
Ouais, et... ça peut être pour un élève qui est allergique, on va faire un PAI. Normalement, il faut en faire un quand il y a une maladie, dès qu'elle devient un petit peu chronique. C'est le protocole à suivre pour filer des médicaments à un enfant, quoi.
C'est ça, la raison première, c'est en cas de besoin, typiquement, la majorité des cas, dans 61% des cas, c'est pour allergie ou asthme ou diabète, c'est quand il faut, dans l'urgence ou pas, hein, donner des médicaments à l'élève et avoir un protocole à suivre pour que même une infirmière qui n'est pas forcément hyper formée sache quoi faire dans ce cas-là.
Oui, bon, en gros, on file leur dos avec le PAI et puis le...
Voilà, c'est ça.
Enfin, moi, j'y sens en tant que parent, mais...
Bah, c'est vrai que, personnellement, moi, j'ai un PAI parce que j'ai des migraines. Mon frère, il a un PAI parce qu'il a des allergies. Et justement, quoi de mieux pour vous en parler que quelqu'un qui a également un PAI? Je vous laisse une amie à moi, Tess, vous en parler.
Un PAI, je crois, c'est protocole d'accompagnement individuel. Donc en général, moi, au début, comment j'ai connu les PAI, c'était en primaire, notamment avec des élèves qui ont des allergies, donc leurs parents leur préparent des repas, etc. Donc moi, j'étais juste là, ah, putain, il a de la chance, il a un PAI. Et plus tard, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas que ça. Et notamment, du coup, j'ai des amis qui ont essayé d'avoir des PAI et qui ont galéré à avoir ça. Et généralement, c'est pour une adaptation d'emploi du temps et également aussi une autorisation à prendre un traitement au lycée, que ça soit encadré. Donc voilà ce que je sais d'ici là. Mmh.
Et du coup, toi, c'est quoi ton expérience par rapport au PAI?
Alors, c'est catastrophique, on va être honnête. Donc moi, en gros, j'ai commencé, pour essayer de faire très très court, j'ai commencé à avoir un psychiatre en septembre 2024. Et très vite, du coup, il m'a diagnostiqué dépressive. Et donc il m'a mis sous traitement quelques mois plus tard. Et il a immédiatement abordé le fait d'avoir un emploi du temps aménagé, parce qu'en fait, j'ai également eu des problèmes de sommeil sur toute l'année, qui fait qu'il y a certains cours, en fait, que je sois là ou que je sois pas là, c'est l'enfer. Donc je suis allée voir l'infirmière, elle m'a passé le papier, elle m'a dit tu dois remplir ça, il n'y a pas de souci. Et du coup après je l'ai ramené à mon psychiatre, il l'a rempli en temps et en heure, on a imprimé mon emploi du temps, on a barré les cours, il n'y avait pas de souci, signature, etc. Tout était très bon. Et arrivé le moment où je le rends à l'infirmière, elle en fait elle doit le transmettre du coup au médecin de l'éducation, donc de notre académie qui est celle de Versailles, pour que déjà le confirme, et après ensuite ça doit être l'administration. Et donc elle m'a expliqué que ça pourrait prendre du temps déjà parce que les médecins scolaires de l'académie de Versailles sont absents en grande majorité, ils sont très peu, ils ont beaucoup de dossiers et ils sont, je crois que deux, il y en a un qui partait à la retraite dans quelques temps, donc ça allait être très très long et très compliqué. Et pour passer outre, elle m'a dit bah je vais quand même le transmettre du coup au principal adjoint et en parler à TCPE, etc. Et du coup pour que ça revienne à la principale, parce que en attendant les docteurs, on va essayer de faire ça au lycée le plus vite. Et du coup elle l'a montré, elle l'a présenté au principal adjoint, et lui a trouvé que c'était contre-productif et qu'il voyait pas du tout l'intérêt, parce que je fais sauter 6 heures de cours sur toute la semaine et il y a 2 heures c'est une spécialité. Donc il m'a dit oui, en fait c'est stupide de faire sauter une spécialité et de pas faire sauter une option, parce que je suis également une option. Donc bah, il a juste dit bah non, ça sert à rien, donc on va pas accepter. Et en plus, mon psychiatre avait mis une date en fait sur l'emploi du temps, c'est un emploi du temps provisoire du coup, entre la période de janvier et de février jusqu'aux vacances. Et le temps que mon dossier soit traité, on était déjà en fait en février, donc il a dit de toute façon l'emploi du temps est plus valable, donc on s'en fiche, et ça a vraiment été mis sur le côté. J'ai eu aucun retour en fait, il est pas venu me voir directement, c'est l'infirmière qui m'a transmis tout ça. Pareil, ma mère, elle a pas du tout été informée. Donc pas du tout de la faute de l'infirmière qui, elle, a fait un très bon travail de là où elle peut. Mais ouais, en fait, c'était vraiment une négligence et bah, j'ai pas trouvé ça cool. Mmh.
Qu'est-ce que t'as ressenti sur le moment quand il y a eu toute cette histoire de PAI refusé, etc.
Bah, je pense que toi-même, tu l'as entendu, j'ai été vachement en colère en fait, ça m'a vraiment saoulée. Et j'ai fait que me plaindre pendant des jours et des jours. Parce que déjà, moi, en fait, effectivement, ça me saoule et ça m'handicape au quotidien. Même si là, on est là au moment où je parle, on est bientôt en avril. Donc en fait, je vais juste finir l'année en bricolant et je vais m'en sortir. Parce que j'ai de la chance, je peux m'en sortir. Mais il y a des élèves qui, eux, s'ils n'ont pas cet emploi du temps, ils peuvent juste pas suivre des cours normalement. C'est impossible pour eux. Et donc s'ils négligent mon cas, je me dis, s'ils négligent ceux des autres aussi, en fait, on fait comment ? Il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent handicapés par ça, et après c'est les premiers à aller les voir, oui mais pourquoi vous n'êtes pas en cours, pourquoi vous demandez pas un i, hein, pourquoi vous nous informez pas, etc. Donc vraiment faut faire ça, savoir faire sa part du travail. Mmh.
Mais du coup en fait il y a tout un travail qui passe par l'administration du lycée. Concrètement, t'as eu des contacts avec l'administration du lycée ?
Alors, moi directement, non. J'ai été en contact avec ma CPE parce qu'il y a un des cours que je fais sauter qui est sport, et comme du coup les épreuves sont en contrôle continu, il faut une dispense spécifique, et je lui expliquais toute la situation, etc. Elle a été compréhensive, mais malheureusement à son échelle, elle peut pas faire grand chose autre que être d'accord avec et être mise au courant. Sinon, l'administration, non, je n'ai pas eu de contact du coup avec le principal adjoint. Je ne sais même pas si la principale est informée, et aucun des deux n'est venu me voir. Enfin, j'ai eu vraiment aucun retour. Tous les échanges que j'ai eus étaient via l'infirmière.
Au niveau des profs.
Ouais, et les profs, mais enfin, les profs, ils ont. Même mes profs étaient au courant, alors qu'en soi, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. Enfin, les profs n'ont pas vraiment de poids là-dedans. Donc, ouais, les principaux concernés, bah, n'étaient pas investis.
Au lycée, est-ce que, outre ce PAI, tu as un accompagnement pour ces difficultés, justement
J'ai l'infirmière qui a toujours sa porte ouverte pour moi et qui sait toujours que je vais apparaître à un moment de la journée. Et elle sait que je viens toujours pour les mêmes choses, je viens toujours lui dire la même chose, etc. Mais sa porte reste ouverte et elle m'écoute toujours et elle me chasse jamais, sauf si elle a vraiment un endroit où être. Donc sur ce niveau-là, on a beaucoup de chance. On a vraiment une infirmière super compétente et vraiment à l'écoute. Donc j'ai de la chance sur ce niveau-là. Et aussi, je peux me permettre de comparer à un autre lycée. J'ai une amie du coup qui était dans le même lycée que moi, qui a changé et qui elle aussi a eu un emploi du temps aménagé l'année dernière, et elle m'a également dit que ça avait pris beaucoup de temps à être mis en place. Et cette année, du coup, elle a toujours cet emploi du temps aménagé dans son établissement, et elle m'a dit que ça s'est fait très rapidement. En fait, elle a expliqué la situation, elle a rempli le dossier, elle l'a ramené, et la semaine qui suivait, c'était en place en fait. Et tous les profs ont été compréhensifs et personne questionne ses absences ou pas en fait. Donc c'est pas une difficulté qui, par rapport à tous les établissements, et oui là, personne ne peut rien faire. C'est vraiment ce lycée a décidé de négliger cette partie de l'enseignement. Donc ça en dit long.
Ok. Merci beaucoup.
Et oui, merci beaucoup Tess. Je sais qu'elle nous écoute en ce moment. Alors, effectivement, le PAI, ça touche beaucoup d'élèves. Ça touche notamment, comme un peu toutes les maladies, des élèves anti-situation de précarité. Et c'est vrai qu'en fait, ce refus de prendre en charge la responsabilité que devrait être celle de l'école finalement, d'avoir un environnement sain et, comment dire, où les élèves peuvent évoluer en étant en sécurité par rapport à leur santé, là on parle de santé, c'est horrible pour ces élèves-là.
Alors là justement, ça s'est super mal passé pour ton amie Tess. Mmh. Elle dit aussi que ça s'est bien passé pour une pote à elle qu'elle connaît dans un autre lycée. Toi, t'en suis un, ça se passe bien ou... c'est plus difficile.
Moi, j'ai de la chance d'avoir un PAI qui n'a pas de besoin d'interférence. C'est-à-dire que le lycée a été mis au courant que il est possible que j'ai besoin de prendre un traitement. Moi, c'est pour des migraines, donc si j'ai une migraine. Mmh. Concrètement, j'ai aucun besoin au lycée d'aller voir l'infirmière pour ce traitement. Je l'ai sur moi et je sais me gérer. Ça n'a pas été le cas au collège, typiquement, où à chaque fois que j'avais une migraine, il fallait que j'aille voir l'infirmière et qu'elle me laissait pas retourner en cours après. Il fallait forcément que je rentre chez moi, en fait.
Donc, grosso modo, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne bien. Je veux dire, Tess, apparemment, c'est le dysfonctionnement dans un système qui fonctionne.
Alors, système qui fonctionne, oui et non. Typiquement, pour ce qui est besoin d'un traitement, du diabète ou de l'asthme, si c'est l'infirmière qui a le traitement, si l'infirmière n'est pas là, parce que la majorité des lycées, et y compris le nôtre, ont des infirmières qui ne sont pas présentes tous les jours, comment fait l'élève s'il a besoin de prendre ce traitement ? La responsabilité, normalement, elle porte sur soit la vie scolaire ou les CPE, sauf que les CPE ne sont pas formés à ce genre de choses. On leur dit « oui, c'est là », mais les CPE n'ont aucune idée de comment typiquement le bureau de l'infirmière marche.
Ouais, donc d'où la réflexion de Tess là qui nous dit pour elle c'est le CPE qui a dit non
non,
ce qu'a dit le médecin ça correspond pas, on l'applique pas.
Bah lui, elle c'est pas sa CPE qui lui a dit ça, c'était le proviseur adjoint.
Le proviseur, oui, non, enfin l'administration quoi qui dit qui prend la place du médecin en fin de compte.
C'est ça, et on va avoir ce truc de d'adultes qui pensent qu'ils connaissent mieux la douleur que les élèves, alors que pour ce genre de choses, en fait, en général, ils ne la vivent pas, et ça va être quelque chose qui... ensuite, c'est assez récurrent, et pas que dans les PAI, pour le coup, ce réflexe qu'ont les adultes à toujours repousser la douleur des élèves, En disant mais non, soit vous faites exprès pour rater des cours, soit vous êtes des flemmards, on trouvera toujours des excuses en fait au final.
Et c'était très intéressant ce sujet sur les PAI. On écoute de la musique ?
Ouais, on enchaîne sur un morceau que Tess a choisi, Boss de Paname de Alpha 520. Non.
Once in a while. Ah, c'était le mauvais.
C'est le mauvais.
C'est la chanson d'avant qui est partie.
Ouais.
Boss de Paname ?
Ouais.
Eh ben dites donc.
Hey boy, il faut que la musique. Moi j'écoute les tam-tam, à part ça, bruit de flingue. Dans la rue c'est bam-bam, négro vole ma peau. Parle mal, c'est Rouam, brandisse des armes. Moi j'te dis comme-comme, hey boy, il faut que la musique. Moi j'écoute les tam-tam, à part ça, bruit de flingue. Dans la rue c'est bam-bam.
C'est Alpha 520, le Renoir le plus vrai. Gangster en grand boubou, mais y'a pas plus frais. 9-3 hustler, animal galeux. 1 million sous le matelas, mais j'suis un dalleux. Laisse le shit au type, moi je passe à la poudre. Boy, tu peux me critiquer, mais j'en ai rien à foutre. Et j'serai un gangster, que j'sois pauvre ou riche. À petite bastos, j'ai de quoi de nourrir. Ça pousse like l'esprit, et rongé de remords. Et j'demande pardon, dès que j'vois que j'ai tort. Si j'n'ai pas un flingue, négro j'ai un schlag. Négro font du cinéma, puis me sortent leurs flash. Économise les chargeurs, ne gaspille pas tes douilles. Moi j'esquive les balles comme si j'étais dans Matrix.
Wesh Alpha, c'est Rusko là. J'suis au puce là, j't'attends là. Des.
Hey boy, fuck la musique. Moi j'écoute les tam-tams, à part ça, bruit de flingue. Dans la rue c'est bam-bam, négro vole ma peau. Parle mal, c'est Rouam, brandisse des armes. Moi j'te dis comme-comme. Hey boy, fuck la musique. Moi j'écoute les tam-tams, à part ça, bruit de flingue. Dans la rue c'est bam-bam, négro vole ma peau. Parle mal, c'est Rouam, brandisse des armes. Moi j'te dis comme-comme. Fais pas en sorte, trop noir, que toi tu ne savais pas. Mes flingues viennent d'Israël, mes meufs viennent de Guada. Bois ta pitraga. Veulent que je devienne papa, mais à ce stade de ma vie, je m'en accable même pas. Alpha, le seul vrai, depuis Black Jack de Bosquet. 9-3 épiné, devant le drive posté. Arrête de suivre mes pas, par les keufs, je suis pisté. Si je meurs, Renoir, des cars va me manquer. Trouve une meuf, serre-la, t'es un chien, appelle-la. Si elle suce le premier jour, moi je te dis, t'es-je là. Elle la gratte même pas, car la vie est une chienne. Moi je garde la tête haute, boy comme un gratte-ciel. Et j'écrase le building, plus le bodybuilder.
porte haut mes couleurs de car gangbanger. Prêche tel un pasteur, mais tu m'écoutes même pas. Et je marche d'esprit, la mort vient à grands pas. Trouve-moi bondi, sinon à épiner. La mort toque à ma porte, je vais pas me cacher. Et la vie n'est pas juste, pourquoi veux-tu que je le sois? Un pote se fonche lassé, puis vient saigner dans mes bras. Et bro, il faut que la musique, moi j'écoute les tam-tams. À part ça, bruit de flingue, dans la rue c'est bam bam. Négro vole ma peau, parle mal, c'est roi. Brandissent des armes, moi je te dis comme quoi. Et boy, il faut que la musique, moi j'écoute les tam-tams. À part ça, bruit de flingue, dans la rue c'est bam bam. Négro vole ma peau, parle mal, c'est roi. Brandissent des armes, moi je te dis comme quoi.
C'est du gangsta. C'est du gangsta.
Et on est de retour, c'est
C'était du rap hardcore, là.
Ouais, de fou. On est toujours diffusé en direct sur Radio Cause Commune en FM 93.1 à Paris et dans sa région, ou en DAB ou sur Internet à l'adresse cause-commune.fm. Et on enchaîne avec ce dernier sujet. Vendredi 28 mars, il y a le premier chapitre.
Mais vendredi 28 mars, c'était
il y a
avant-hier.
Et c'était il y a deux jours.
On est sur l'actualité chaude là, sur Radio Cause Commune.
Oui, il y a le premier chapitre d'un jeu vidéo attendu depuis longtemps par la communauté indé qui est sorti, Ena Dream Barbecue. Alors c'est un projet qui existe depuis 4 ans déjà. Son créateur, Joël Guerra, a posté sur sa chaîne 4 animations précédant le jeu. Et le jeu lui-même, en fait, était censé être une animation avant qu'il soit décidé d'en faire un jeu d'aventure interactif. C'est-à-dire qu'on va quand même suivre ce truc assez scripté, mais avec certaines dimensions de choix et ce fait qu'on puisse se déplacé dans l'environnement qui jusque-là était juste montré en fait. Et ça fait que hier vendredi soir et hier j'y ai joué, je l'ai même fini ce premier chapitre. J'ai passé un très bon moment en fait.
Alors à quoi ça ressemble ?
Alors c'est plutôt simple, on évolue dans un monde en 3D semi-ouvert. On va avoir des étendues assez avec des graphismes qui rappellent vraiment pour le coup la Nintendo 64, c'est-à-dire les débuts de la 3D en jeu vidéo, donc avec des textures très simples et par contre pour le coup quand même ce truc d'avoir des étendues à certains endroits de terrain où jouer qui sont très très grandes et qui rappellent un peu les backrooms. C'est-à-dire qu'on va avoir des endroits où soit on va avoir du rien sur sur 5 minutes de marche dans un jeu, voire même plus. Ce qui peut paraître assez court, mais quand le but c'est de jouer, en vrai c'est assez long. Mais aussi, à certains endroits, des très très longs couloirs où on sait pas où ça nous amène. Et même le lancement du jeu. Il n'y a pas de tutoriel, on vous donne juste les 3 touches intéressantes, c'est-à-dire avancer, sauter et interagir avec un objet. Et vous êtes lâché dans un espèce de village délabré, avec un ciel rouge et un immense mannequin noir qui nage dans le ciel autour de vous. Et vous pouvez vous déplacer, mais il n'y a aucun objectif, en fait.
C'est un jeu sans objectif.
C'est... pas totalement, dans les 15 premières minutes de jeu à peu près.
D'accord.
On évolue dans un univers sans vrais objectifs. On trouve des portes qui nous changent totalement d'endroit. On peut regarder autour de soi et on a des messages assez bizarres. À un moment, il y a une fontaine de sang, on sait pas vraiment pourquoi. Mais au début, il n'y a pas d'objectif. Jusqu'à ce qu'on arrive à rencontrer finalement quelqu'un d'autre. Et c'est là que...
Un autre personnage ou un joueur.
Un autre personnage, un PNJ, personnage non joueur. C'est un jeu qui est en solo. Et c'est là que, premièrement, on voit à quoi notre personnage nous ressemble aussi. C'est-à-dire que dans les 15 premières minutes du jeu, on ne sait pas qui on joue et notre personnage ne parle pas, en fait. Et du coup, on va s'apercevoir que malgré cet environnement 3D, notre personnage à nous est en deux dimensions. Notre personnage du coup qui s'appelle Ena, c'est une espèce de créature humanoïde qui est très bizarre. Elle change de voix et de personnalité durant les dialogues. Et les personnages avec qui on va interagir, ils vont être en général aussi en deux dimensions, mais pas forcément dans le même style. Ça, c'est un truc qui est très très intéressant. Notre personnage, il va être dans la majorité du temps un personnage en deux dimensions animé, comment dire, numériquement. Mm-hmm. Donc on va avoir l'impression que c'est un peu un dessin animé. Mais on va avoir des personnages, d'autres personnages avec qui on va interagir, qui eux vont être en pixels ou en semi-3D, semi-2D, qui vont changer d'état aussi et qui vont... Enfin, du coup, ça rajoute vraiment toute une couche de mystère où...
Ouais, y a un empilement de textures qui sont reliées à des époques différentes qui font une ambiance spéciale.
C'est ça, avec vraiment des moments où on sait pas vraiment ce qu'on fait et pourquoi on le fait, avec un doublage. Le jeu est intégralement doublé, premièrement en anglais, mais les personnages vont parler plein de langues différentes. Et c'est-à-dire qu'on va avoir la moitié des personnages qui ne parlent pas anglais et qui vont parler d'autres langues. Donc il y a des personnages qui parlent thaïlandais, une française. Et du coup, ça va rajouter encore plus d'incompréhension.
C'est quand même sous-titré.
Alors tout est
pour pouvoir comprendre.
Tout est sous-titré en anglais.
Là, il n'y a pas de version française.
Il n'y a pas de version française encore. Mais oui, du coup, il faut savoir parler anglais. Mais on va avoir des passages entiers qui vont être en japonais. Typiquement, l'espèce d'acolyte de notre personnage qu'on voit au début du jeu. Enfin, après ce passage d'inconnu. Il va parler japonais, et à chaque fois qu'il va essayer de nous parler, il va nous parler en japonais. Ce qui est... Enfin, c'est un choix qui est très intéressant, et ça rajoute encore une couche au mystère, en fait, qui recouvre le jeu, et à ce sentiment vraiment d'incompréhension. Pourquoi ? Parce qu'on est plongé dans un monde qui a ses propres règles. On nous parle de portes qui nous transportent de monde en monde, mais sans jamais nous expliquer quoi que ce soit. Et... C'est des éléments qui ont déjà été abordés dans les 4 vidéos qui précédaient le jeu, mais qu'on ne comprenait déjà pas à l'époque et qu'on ne comprend toujours pas avec ce jeu. Le jeu n'apporte aucune réponse, et c'est ça qui est génial.
Alors là, tu t'es plongé dedans depuis 2 jours qu'il est sorti. Quels sont les thèmes qui sont abordés d'après toi, quand même ?
Alors, vraiment ce thème de l'inconnu, c'est-à-dire que quand on arrive, on comprend qu'on n'est pas nouveau dans ce monde. La majorité des personnages à qui on va parler, ils vont connaître notre nom, et ils vont nous appeler par notre nom, donc Ena, et ils vont nous parler d'événements qui sont arrivés avant, comme si nous on était au courant.
D'accord.
Donc on va nous
parler. Et c'est à nous de recoller les morceaux pour comprendre.
Et ben, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais... en tout cas dans le premier chapitre, il n'y a aucune réponse claire.
Est-ce qu'il y a un but ? Est-ce que est-ce qu'il y a des méchants à tuer ? Est-ce que...
Alors, il y a un but qui est donné par notre acolyte quand on le rencontre, c'est de trouver le boss. Ce qui est très très vague, pourquoi ? Parce qu'on ne nous explique pas qui est le boss et on ne nous explique pas à quoi il ressemble. Et du coup...
Ça, c'est toujours l'objectif dans un jeu vidéo, c'est trouver le boss, c'est le monstre de fin de niveau qui est plus fort que les autres.
C'est ça. Sauf que là, on ne sait pas quel boss on cherche, et on va même avoir plusieurs autres personnages qu'on va rencontrer qui vont faire semblant d'être le boss, mais sans jamais qu'on sache pourquoi est-ce qu'on cherche le boss. Donc on va avoir cette reprise vraiment des codes du jeu vidéo, avec un objectif assez vague en fait. On va aussi nous parler de sauver des gens, etc. Mais sans jamais que ce soit concret en fait. Et c'est ça qui est très très drôle.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la musique qu'on est en train d'écouter là ?
Alors, la musique, elle est... Il y a une équipe de 5 musiciens en tout qui ont travaillé sur les musiques d'ENA. Le premier, c'est Monsieur Tori, il me semble.
Ouais, Ippei Tori, c'est celui qu'on est en train d'écouter là.
Qui a été le plus... Le plus investi. Mais du coup, le jeu entier est fait pour... comment dire ? Le jeu entier est à une musique ambiante qui correspond à chacune des environnements qu'on va explorer. Il y a tout un environnement un peu désertique qui a une musique qui correspond et ce qui va permettre de créer des vraies salles d'ambiance.
Ouais.
Où pour finalement, un truc qui est assez similaire de grands espaces un peu glitchés, où on comprend pas vraiment
glitché,
ce qui se passe.
C'est-à-dire
glitché, c'est-à-dire qu'il va y avoir des endroits où, vu que c'est de la 3D, ils vont faire exprès de retirer des textures à certains endroits. La fin du chapitre, elle
se... C'est comme s'il y avait des erreurs dans le jeu vidéo.
C'est ça. À la fin du chapitre, il y a notre acolyte qui nous appelle pour nous dire que la porte dans laquelle on est, qui est grosso modo, de ce que j'ai compris, l'univers dans lequel on évolue est en train de se refermer, donc l'univers autour de nous disparaît, et du coup, on refait le chemin qu'on a fait jusque-là en inverse, mais dans un monde entièrement gris.
En noir et blanc ?
Pas en noir et blanc, c'est-à-dire qu'on a retiré toutes les textures. Le sol, là où avant c'était un espèce de sable avec des pierres, là c'est totalement gris.
Ok.
Mais on retrouve des formes, il y a des bâtiments qu'on a explorés, où on retrouve à peu près la forme, mais tous les triangles sont devenus des carrés et ça devient un truc un peu vraiment forme de base, très brouillon. Et on voit notre personnage et notre vision autour de nous qui se restreint dans ces carrés aussi là. Et avec cette ambiance musicale qui va ajouter à, pour le coup là, l'oppressant. Et qui va se libérer à la fin en une espèce de grande... prière très bizarre pour le coup. C'est très très dur à expliquer parce que c'est des ambiances qui sont vraiment mais c'est dans le titre aussi, c'est très inspiré du rêve en fait.
Non, c'est le titre, c'est ENA
Dream Barbecue.
Dream Barbecue. Barbecue BBQ.
BBQ. Oui, ouais, ça pourrait vouloir Dream dire autre BBQ. Chose.
En tout cas, c'est écrit comme ça.
Mais ça s'écrit. Mais du coup, Dream...
Où est-ce que c'est sur quelle plateforme, où est-ce qu'on peut l'acheter, ce jeu ?
Alors, ce jeu est totalement gratuit, même s'il y a une version payante si on veut soutenir les créateurs. Et il est disponible sur la plateforme Steam et ce sur tous les tous les appareils en fait. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec Steam où on peut pas jouer à tous les jeux vidéo sur Steam sur Linux typiquement. ENA c'est disponible sur Linux, donc tout le monde peut y jouer.
C'est sur ordinateur.
C'est sur ordinateur.
Ça marche pas sur téléphone.
Non,
c'est sur console.
Sur console non plus, ça se joue au clavier.
Ok, donc sur ordinateur sur Steam.
Sur ordinateur sur Steam. Voilà. Et du coup, bah, je peux que vous le recommander, en fait. Hein. c'est quelque chose... Et c'est pour ça que c'est très très dur de le décrire. C'est parce que y a vraiment ce truc du rêve et où le jeu essaye véritablement de vous faire oublier... Enfin, pas vous faire oublier, mais genre vous faire remettre en question des trucs que vous trouvez, que vous trouveriez logique.
Ça fait appel à quel talent du joueur ? On connaît des jeux de tir, des jeux de plateforme où il faut anticiper les mouvements du personnage. On connaît des RPG où il faut choisir entre différents codes, enfin entre différentes lignes de dialogue pour pouvoir avancer dans l'histoire. Là, ça repose sur quoi ?
Là, ça repose pas vraiment sur une capacité. Le jeu n'a pas vraiment de difficulté, en vrai. Mais parce que, comme un livre n'a pas vraiment de difficulté, en vrai. avec vraiment ce truc de, même si on peut faire un peu dévier l'histoire, il y a des endroits de choix, de il y a une scène de où un personnage nous demande quels sont tes désirs, Ena, et il y a cinq choses que tu peux choisir. Et là, ça fait qu'il y a cinq lignes, branches différentes de gameplay. Moi, j'en ai testé qu'une seule. Donc, ça va vraiment voir, tester les limites de la compréhension du joueur.
Il y a d'autres jeux qui sont un petit peu dans le même style que... auquel on pourrait le comparer pour pouvoir donner envie aux gens, quoi.
Comme jeu un peu connu, oui, c'est vraiment sur la communauté indé. Le jeu qui porte un nom assez similaire, en fait, LSD Dream Simulator.
Ok, voilà. LSD donc, Dream Simulator.
C'est, ouais. c'est dans le nom, hein, simulation de rêve sous LSD. Mais aussi, je pense que le jeu beaucoup plus accessible, Deltarune, où il y a là seulement deux chapitres aussi qui sont sortis, c'est assez comparable. Alors Deltarune, c'est un RPG beaucoup plus guidé et beaucoup moins abstrait, mais toujours indé et avec tout ce truc de aussi comprendre le monde dans lequel on évolue et savoir... pourquoi chercher ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
T'as une idée de quand le deuxième chapitre de Ena Dream Barbecue sort ?
Alors absolument pas, étant donné que le premier a mis 4 ans à sortir, on ose espérer que ça sortira, les prochains sortiront plus vite. Mais typiquement, bah, l'exemple de Deltarune que j'ai donné, ça fait 3 ans pareil que les deux premiers chapitres sont sortis. On n'a toujours pas on a des nouvelles de temps en temps que ça avance, mais on a jamais, la date de sortie a déjà été reculée deux fois. Là, elle a été reculée à avril, donc ouais. C'est assez proche, mais c'est possible que ce soit redélié encore.
Et donc pour rester sur Ena Dream Barbecue, qui est dans l'équipe de développement du jeu, tu as un petit peu d'informations là-dessus?
Alors, le seul dont j'ai une information, c'est Joël Guerra, qui est le créateur des vidéos sur YouTube et du coup le designer principal aussi du jeu, et le directeur artistique en fait de tout le jeu. Et derrière, il a eu toute une équipe de production dont j'ai pas les noms parce que c'était son équipe pour le coup.
D'accord.
Qui se réunissent tous derrière lui et qui étaient déjà là présents pour les
jeux. Joël Guerra, tu sais quel est son background, quels sont ses thèmes de prédilection, d'où il vient et tout ça?
Joël Guerra, il a commencé à faire du contenu sur Internet il y a longtemps et juste il a été. C'est pour le coup, c'est Ena qui l'a propulsé sur la scène indé avec ce truc. Alors oui, la raison pour laquelle il a mis autant d'acteurs, de doublages différents, c'est parce qu'il est péruvien et que justement lui, l'importance de connaître plusieurs langues, etc. Pour lui, c'était important dans sa vie. Mais mis à part ça, j'ai pas vraiment d'informations sur lui.
Non, d'accord, c'était pour voir si on avait un petit peu une idée du background et de ses influences pour pouvoir raccrocher sans s'imaginer à quoi ça peut ressembler sans forcément avoir joué ou connaître le jeu. Donc c'est sur Steam, sur la plateforme Steam qu'on peut installer sur l'ordinateur.
Voilà.
Et on entend
Immaterial de Sophie.
Et oui, on entend déjà le générique, c'est la fin.
Et oui. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On était diffusé sur Radio Cause Commune. Et il nous reste 5 minutes.
Mais il nous reste 4 minutes. 4 minutes de générique.
Et de remerciements. Remerciements à Tess, déjà, d'avoir accepté d'être interviewé.
Ouais, superbe interview. Bravo, bravo à elle.
Voilà. Et on se retrouve d'ici un mois pour d'autres sujets. tout aussi pertinents.
Bah oui, on va les trouver ensemble, on va réfléchir à quoi, de quoi on pourrait bien parler.
Voilà. Et merci du coup à la... Comment ça s'appelle ?
À la technique.
À la technique, mon frère Elias qui était là en... Bah à la technique aujourd'hui.
Bonjour !
Voilà. Merci beaucoup et merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
Bonne fin de week-end.
Bon week-end.
Girl in the eyes of my inner child, like a bee.